sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à apposer le nom.
Oh, désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Jeanne Paravert, réalisée par David Leprince et Eliane Girard, et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Rémi Sistiaga. La gourmandise ce matin, c'est la poésie de la réponse de Jean Cocteau à la question de son ami l'écrivain et éditeur André Frégnaud. La question était « Si votre maison brûlait, qu'emporteriez-vous ?» La réponse de Cocteau « Je crois que j'emporterais le feu. » Philosophe et écrivain, notre apothicaire de l'âme enseigne la philosophie en classe préparatoire au lycée Alfred Kastler de Cergy-Pontoise. Ses travaux tournent autour de la souffrance et de la violence inhérente au réel. Maladie, deuil, séparation, désertion de soi. Elle analyse avec finesse les multiples ruptures intimes qui nous constituent. Membre associée de l'École normale supérieure, elle dirige le séminaire international d'études sur le soin et a publié en mars dernier un puissant et brillant ouvrage aux éditions de l'Observatoire intitulé « Rupture », ouvrage qui accorde un parfait espace au caractère inéluctable de l'expérience de la douleur. Les ruptures sont maintenant sur tous les plans. Avant, si on perdait son travail, on pouvait se raccrocher à sa famille. C'est comme si tout était devenu instable, incertain, précaire, sans refuge, professionnellement, amoureusement, même politiquement, affirme notre apothicaire. Sa pensée apparaît comme un indispensable phare dont la lumière noire surplombe notre société du divertissement et de l'illusion. Bonjour Claire Marin.
Bonjour.
Pierre Marin, vous qui n'hésitez pas à descendre dans les abîmes, quel est votre rapport à la mélancolie ?
C'est une grande familiarité, je crois que c'est un sentiment qui m'accompagne depuis longtemps. Et c'est sans doute pour cette raison que les thématiques qui l'alimentent ont toujours été aussi assez présentes dans ma réflexion et mon écriture.
Vous ne l'avez jamais fui ? Cette mélancolie, avez-vous réussi à l'apprivoiser ?
Je crois qu'on l'emmène toujours avec soi. On peut partir très loin, mais on s'exile jamais très très loin de la mélancolie. Elle est peut-être aussi un certain trait de caractère. Après, je crois que le travail d'écriture participe de cet effort à la rendre aussi peut-être moins obsédante à certains moments ou inhibante, parce qu'elle peut aussi nous retenir loin du réel. Donc c'est ma manière d'y répondre, on va dire.
Le pouvoir apotropaïque de l'écriture, on en parlera puisqu'on va parler de Barthes et de son journal de deuil et apotropaïque que j'avais chroniqué récemment. Oui. Ça veut dire qu'il détourne les mauvaises influences, par exemple un talisman apotropaïque. J'annonce le sommaire. Claire Marin, dans quelques instants, vous allez convoquer beaucoup de choses. Bill Murray, Roland Barthes, entre autres Clément Rosset, Henri Bergson, Gilles Deleuze, Charles Juliet, Henri Michaud, Pierre Bergougnou, des surprises, les Naïve New Beaters, Isia, le groupe Beyrouth, Vincent Delcroix, Fitzgerald et plein d'autres choses. Après un titre de la playlist de France Inter, Jimmy d'Aloïse Sauvage.
Jimmy solitaire, Jimmy s'affaire à s'affirmer pas à pas, même si tout ça est harassant parfois. Jimmy a le regard troublé, Jimmy le sait. C'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses yeux conquis. Enchaîne les blagues, Jimmy divague, pensant déjà à la belle bague qui ornerait le doigt de sa future femme. Jimmy tape terrain, Jimmy sent bien comme c'est terriblement grisant de s'attacher ainsi. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que, mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui Jimmy veut. La nuit, Jimmy gémit quand on lui dit que, mais arrêtez de dire que Jimmy veut. Jimmy a émis, mais y'a mille raisons de se taire. Si tout le monde s'y met, cache. Jimmy charme, Jimmy gagne la confiance de sa belle qui se laisse couler sous les draps jusqu'au souper. En s'oubliant, se laisser vivre. Jimmy a réussi son coup. Dans la rue, à son bras, ça fait le ciné. Et Jimmy, quand j'ai déjà beaucoup, ses plans sur la comète, un jour des enfants à son cou. Jimmy voit très bien que les yeux étrangers regardent les siens. C'est sa première fois, sa première femme. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on les observe passer. La nuit, Jimmy, Jimmy, quand on lui dit que.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de la philosophe Claire Marin.
C'est lamentable. Voilà 1000 pecnos qui scaillent les miches pour vénérer une saloperie de rat. Quelle foutaise. Et dans le temps, le jour de la marmotte avait encore un sens. On envoyait illico la marmotte à la marmite. Bande d'hypocrites. C'est scandaleux. Quoi, t'as un problème, Larry? T'es pas d'accord? T'as une langue? Viens prendre le micro, ça te changera. C'est pas la joie, princesse? Ceux qui veulent des prévisions pour l'hiver sont en train de se gourer de films. Vous allez voir, en voilà une de prévision. Ce sera un hiver froid. Ce sera un hiver gris. Et ce sera un hiver long. Vous en avez pour toute votre vie.
Bill Murray dans Un jour sans fin d'Harold Ramis, doublé en version originale par Richard Darbois. Toute traduction est trahison, pardonnez-moi Claire Marin. Vous, plutôt que de préciser un film en particulier, vous nous avez dit que vous convoquiez des acteurs. Ce sont des acteurs comme des présences rassurantes que vous retrouvez dans plusieurs films. Il y a entre autres Vincent McCain, Bill Murray ou Romain Duris. Même dans des mauvais films?
Même dans des mauvais films, c'est comme des amis qu'on aime bien voir, même dans leurs mauvais moments ou quand ils sont un peu pitoyables. Il y a cette idée-là de retrouver, ouais, là encore, une familiarité, une compagnie, des gens avec qui on sait qu'on se sent bien, quelle que soit la situation dans laquelle ils nous emmènent. Et c'est vrai que j'aime bien ce type de rapport aux comédiens qui va être indépendant de la qualité du court-métrage, de la pièce de théâtre, du film.
Donc c'est plus une histoire de présence.
Oui, tout à fait. De présence, de manière d'être. Et puis c'est aussi parfois des figures qui sont elles-mêmes un peu mélancoliques ou un peu loseuses. J'aime bien cette posture-là aussi au cinéma.
C'est vrai que Bill Murray, dans beaucoup de films, il est très mélancolique. Ouais. Je pense à Broken Flowers de Jarmusch, mais à plein d'autres films. Sinon, évidemment, marchent sur vous aussi les grands classiques de la comédie, comme Un éléphant s'est trompé énormément ou Le Grand Blond.
Quand il faut rire ou quand ça devient... ouais. Important, vital, nécessaire, ou que c'est un moyen de partager un moment avec d'autres, de le faire découvrir à des plus petits. Ça aussi, c'est très, très réjouissant. Ça va être ce type de comédie, en effet.
Vous dites aussi, Claire Marin, que quand vous êtes triste, vous aimez regarder des films encore plus tristes que vous, peut-être pour rechercher l'effet cathartique.
Tout à fait.
Alors, ouais. Quel type de film? J'ai l'impression, mais dites-moi si je me trompe, que les films offrent une sorte de support sécurisé pour avoir l'autorisation de pleurer, c'est-à-dire qu'on peut évacuer sa tristesse personnelle, mais en la tenant un peu à distance, puisqu'on est censé pleurer pour quelqu'un d'autre.
Oui, il y a cet effet-là, c'est un cadre... autorisé. Alors d'abord parce que des fois on est tout seul, donc on peut se le permettre. Et puis c'est exactement ce que vous avez dit, cet effet cathartique qu'on va rechercher dans la pièce de théâtre ou le film, le moment où on peut sortir un peu de soi pour ne plus laisser que l'expression s'exprimer, enfin se manifester, un peu comme une vague. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre. Et le cadre esthétique, parfois aussi, c'est évidemment beaucoup plus rare, mais ça peut être une image qui va produire une image fixe, une photographie qui va produire cet effet. Je crois que c'est toute la puissance d'une œuvre d'art, même mineur d'un point de vue, si on veut dire un peu esthétique, c'est de nous aider parfois à prendre conscience de nos propres émotions, parce que parfois on sait qu'on le regarde pour pouvoir pleurer en toute impunité, mais parfois aussi on se laisse surprendre par quelque chose qu'on avait, une émotion qu'on n'avait pas prévue et qui se révèle à nous-mêmes à travers la médiation du support artistique.
Je dirais que malgré tout, il y a une solitude de l'amour-passion pour deux raisons. Je crois qu'il faut distinguer entre ce que j'appelle le discours amoureux, c'est-à-dire l'espèce de soliloque que le sujet amoureux se tient dans sa tête lorsqu'il est amoureux, et l'histoire d'amour, c'est-à-dire ce que la société fait de ce sentiment amoureux en lui donnant l'espèce d'harmonie, même s'il est un peu douloureuse, d'une histoire, d'un récit. Et la seconde raison de cette solitude, c'est que dans l'époque actuelle, cette espèce d'amour romantique, il faut bien le dire, il n'est plus à la mode. Ni le marxisme, ni même la psychanalyse, si vous voulez, ne prennent en charge ce sentiment amoureux.
Vous l'avez reconnu tout de suite, Claire Marin, je le vois à votre sourire. C'est une archive de 77 sur Antenne 2, Roland Barthes, dans l'apostrophe de Bernard Pivot à l'occasion de la sortie de fragments d'un discours amoureux. Claire Marin, vous vous entourez de tout un panthéon de penseurs, écrivains et philosophes. J'aimerais qu'on passe les principaux en revue. Tout d'abord, Roland Barthes, pour commencer, vous avez choisi fragments d'un discours amoureux et le journal de deuil qui sont vraiment des repères pour vous.
Qui sont plus que ça, qui sont vraiment... des compagnons d'existence, des textes qu'on relit soit entièrement, soit par fragments, mais à plusieurs moments qui seront forcément des moments clés de notre existence. Là encore, on parlait d'une forme d'amitié avec des acteurs qu'on connaît pas. Je crois que c'est aussi ce qui se passe dans mon rapport aux philosophes. Certains d'entre eux sont des figures qui sont importantes comme pourraient l'être un ami essentiel dans notre vie parce que leurs œuvres nous apportent de repères, de supports, d'éléments pour se comprendre soi-même. Et puis avec Barthes, en tout cas, de manière de penser soit la folie de cette passion amoureuse d'une manière tellement juste et tellement subtile et fine que c'en est toujours impressionnant. C'est comme s'il voyait à travers nous. Ou le désespoir de la perte absolue dont il parle si avec tellement de justesse et de pudeur.
Dans le journal de deuil, lu grâce à vous, Claire Marin, et vraiment, je vous remercie. C'est un journal donc que Barthes débute au lendemain de la mort de sa mère qu'il adorait le 25 octobre 77. Il le tient pendant presque un an. Et dans ce journal, il est très étonné de la pulsion de vie qui se manifeste malgré tout.
Je crois que c'est quelque chose qui est toujours très déstabilisant quand on est au milieu d'une expérience de perte, perte d'un autre, perte d'un amour ou perte de soi dans la maladie, on peut avoir ce sentiment, de voir en même temps apparaître une espèce de résistance vitale qui en fait s'explique par le fait que la vie elle-même est à la fois... construction et démolition, donc la perte est aussi un élément de la vie, mais on la représente pas comme telle. Mais il y a dans l'intensité de la perte quelque chose qui se transforme aussi parfois en puissance, en énergie, en dynamisme. Ça, c'est très déstabilisant en fait, de voir cette énergie surgir là où on devrait être seulement abattu et seulement désespéré. Mais le désespoir est parfois mêlé aussi de cette énergie qui peut être aussi de la colère, des sentiments toujours mêlés. Et on a souvent tendance à réduire, on qualifie les sentiments avec un mot, là où il y a un mélange, une multiplicité, ça Bergson le dit très bien, intérieur beaucoup plus complexe.
Le deuil ne se fait parfois jamais. Barthes a survécu 3 ans à la mort de sa mère, mais il était fou de chagrin. Ouais. Et puis il y a cette phrase, à un moment il regarde une photo de sa mère petite, il est dévasté et il dit « Je pleure, pas même l'envie de se suicider ».
Ouais,
c'est au-delà de...
C'est au-delà de cette énergie minimale qu'il faudrait pour mettre un terme à cette souffrance. C'est quelque chose à laquelle je suis très sensible de dire à quel point la douleur ou la souffrance psychique... parfois est indépassable et on veut pas l'entendre. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas du tout audible dans la société dans laquelle on vit. Et pourtant, on voit bien comment certaines souffrances psychiques mènent à des issues tragiques. Et je crois que c'est important de reconnaître ça, qu'il y a parfois dans la perte quelque chose d'indépassable et d'irréparable.
On nie aussi, Claire Marin, dans notre société du spectacle, justement, la gravité, la tragédie, la douleur, comme vous venez de le dire. Il y a un moment où Barthes a cette réflexion et parle du malaise qu'il y a dans notre société, puisqu'on nie le deuil, alors que dans beaucoup de civilisations, on a codifié une extériorisation du deuil. Vous pensez que c'est nécessaire, cette extériorisation du deuil ou de la douleur ?
Je crois qu'on manque quand même de rituels symboliques qui nous accompagnent dans ces moments qui sont si difficiles, si éprouvants. Et c'est pour ça que moi j'aime bien les gris-gris, les objets auxquels on transfère une puissance magique, parce qu'ils s'inscrivent, même s'ils peuvent sembler dérisoires, ridicules, etc., ils s'inscrivent comme ça dans une extériorisation, une ritualisation. Les choses servent à ça. Enfin, les choses, évidemment, on peut s'en servir de manière pratique, mais je crois que les choses sont beaucoup plus symboliques que pratiques. Et on manque de ces éléments symboliques qui nous soutiennent et nous aident à traverser ces moments-là. Et ce, d'autant plus qu'on abandonne les rituels religieux dans notre société. Donc, je crois qu'on est très démunis face à ces épreuves, et ce d'autant plus qu'on ne nous donne pas le temps de les traverser, de les penser, oui, même de les vivre dans un premier temps, sans même essayer de les dépasser, ni de matérialiser notre tristesse. On s'habille plus en noir, mais ça voulait dire quand même quelque chose de nous. Je crois que ce manque finalement nous dessert.
C'est juste. Enfin, c'est ce que je ressens aussi, je ne sais pas si c'est juste, mais je vous rejoins, Claire Marin. Comme autre aide, vous avez les textes de Bergson, de Paul Valéry, de Deleuze ou de Clément Rosset. Vous dites qu'ils sont d'un grand secours. Alors, Clément Rosset, son œuvre est consacrée à la question de l'acceptation ou du refus du réel. Et chez lui, il combat les illusions. Et le réel est loin d'être un chic type, il parle de sa cruauté.
Oui, c'est vrai.
L'accès au réel tue.
Oui, on est dans une illusion, et moi, l'illusion dont il parle très bien et dont peu de philosophes finalement se sont vraiment saisis, c'est l'illusion d'une identité une, singulière, d'une constance du sujet, d'une espèce de moi qui serait comme une belle boule bien complète. Et ça, c'est quand j'ai lu ces textes de Rosset, qui lui-même relie Hume, certains passages de Pascal, où on s'interroge sur ce moi que la philosophie occidentale a créé. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement libérateur, parce que ce qu'on éprouve, c'est quand même une forme d'inconstance, d'incertitude, d'instabilité. Qui je suis, je ne sais pas si un jour je répondrai clairement à cette question. Donc qu'un philosophe ose dire, peut-être que je ne suis rien d'autre que l'ensemble des circonstances, des occasions, des événements artificielles ou accidentelles qui se sont produits autour de moi, qui ont fait que je suis finalement celle-ci plutôt que celle-là. Finalement, je trouve que c'est un soulagement. Et que ces sentiments qu'on peut avoir de ne pas savoir vraiment qui on est, où on se place, ce qu'on doit faire, c'est peut-être beaucoup plus partagé, beaucoup plus commun, beaucoup plus humain que de se dire je sais très bien qui je suis et je peux clairement me définir et je suis en plus un être constant.
Vous recommanderiez la lecture de son texte Loin de moi ?
Loin de moi, ouais.
Qui là ressemble aussi, beaucoup ouais. à votre roman Hors de moi,
oui,
clairement.
Oui, ce que j'ai réalisé très tardivement en fait, mais c'est clair que c'était un texte décisif pour moi en philosophie.
Que recommanderiez-vous comme lecture aux auditeurs d'Henri Bergson et de Deleuze ?
Alors, de Bergson, c'est plus compliqué parce que j'aurais tendance à dire que c'est des petits passages qui peuvent être très éclairants. Il y en a certains dans Le Rire, par exemple, qui sont très beaux sur ce à quoi l'art sert dans notre vie, ce que l'art nous permet de voir et ce à côté de quoi on passe tous les jours par habitude et par routine, on va dire, professionnelle ou familiale. Ça, c'est quand même une très belle définition de l'art. Et puis, tout ce que Bergson dit sur le fait de ne pas passer à côté de sa vie, c'est quand même beaucoup de passages qui sont éclairants. Et Deleuze, on peut commencer aussi, je vais dire quelque chose qui est un peu provocateur, par ne pas le lire, c'est-à-dire par écouter l'abécédaire.
Bien sûr.
Je trouve que c'est quand même une fabuleuse initiation, et que ça donne par la suite envie d'aller lire les textes.
On retrouve Claire Marin dans votre dernier essai Rupture aux éditions de l'Observatoire, beaucoup de ces auteurs dont on parle maintenant dans l'émission. Il y a aussi les textes de Bergougnoux, de Charles-Juliette Pontalis et des poésies de Michaud, oui, qui sont un appui pour vous. J'aimerais, on n'aura pas le temps de tous les aborder, mais j'aimerais qu'on se concentre sur Charles-Juliette qu'on avait reçu, parce qu'il y a quelque chose d'assez remarquable chez lui. Déjà, il a une histoire très liée à la rupture, telle que vous, oui, l'entendez, Claire Marin.
Oui,
et aussi, il est passé vraiment d'un journal intime au tout début de sa carrière d'écrivain, absolument désespéré, suicidaire, et qui faisait beaucoup penser à Suran, à une acceptation du réel et presque une sérénité dans l'existence.
Oui, et en même temps, je me souviens de l'avoir entendu à la radio, où il était interrogé sur son lien à sa mère. Et il avait beau être un vieil homme, l'émotion était vraiment très présente. Je crois que on se libère jamais de ces émotions les plus profondes, les plus archaïques peut-être, et que peut-être qu'à la surface, quelque chose comme une forme de sérénité peut affleurer, mais qu'en profondeur, on reste quand même très, très marqué par ces expériences-là.
Parfois, on peut se demander si en fait, le traumatisme n'est pas l'état naturel de l'homme, et puis il faut juste, au lieu d'essayer de les nier ou de les éviter ou de les amoindrir, vivre avec. Vous pensez que c'est possible?
Oui, c'est aussi là, pour le coup, plutôt vers Fitzgerald que j'irai, mais qui a toujours une fêlure plus ou moins grande, plus ou moins consciente, etc. Que, comme il le dit lui-même, il y a plusieurs façons de se fêler, mais que sont sans doute très rares ceux d'entre nous qui peuvent dire qu'il n'y a pas une blessure profonde quelque part qui se réveille ou qui résonne à certaines occasions.
On va parler de fêlure et de Fitzgerald dans quelques instants, mais d'abord découvrons vos antidotes musicaux. Claire Marin, voici le premier. Today you hurt me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you hurt me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. I had a dream, it was melting like a sand castle in the wind. You couldn't focus.
Yeah.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de la philosophe Claire Marin qui a choisi plusieurs titres anti-spleen. On les mettra en totalité sur le site internet. Et là, celui qu'on vient d'entendre, c'est Heal Tomorrow, guérir demain, d'Isia et des Naïve New Beaters, sorti en 2016. C'est un titre qui vous, je vous cite Claire Marin, rebooste.
Ouais, je crois que la grande force de la musique, c'est d'imprimer à notre corps et à notre esprit un rythme très différent. Et ouais, c'est vraiment une pratique qui est quasiment quotidienne. De choisir la musique pour qu'elle me mette dans un état d'esprit qui n'est pas celui que j'ai, qu'elle me fasse changer de rythme.
Donc vous l'utilisez réellement, dynamiquement.
Oui, c'est presque choisissez. Un peu comme un élément thérapeutique, c'est-à-dire au lieu de reprendre une tasse de café, je vais mettre cette playlist-là. Et en plus, je crois que ça a aussi un effet direct. Par exemple, on n'écrit pas de la même manière quand on écrit en écoutant tel ou tel type de musique. Enfin, c'est une puissance d'impression d'un tempo très particulier. Et le corps, c'est avant tout un rythme. Et il y a quasiment que la musique qui a cet effet, en tout cas chez moi, aussi efficace, aussi rapide, aussi immédiat sur mon état d'esprit, la rapidité des pensées, le type de connexion que ça a. Et puis après, sur le courage. Enfin, parfois, il faut affronter une classe, un RER bondé, etc. Il y a des moments où on a besoin de ce courage-là.
Le corps est très présent dans votre œuvre, Claire Marin. Et je pense même à votre dernier livre, Rupture. Je parle de tous les livres, mais dans Rupture, vous dites qu'on oublie souvent que les choses s'imprègnent et s'impriment dans le corps, sur le corps, se voient parfois sur le visage. Il y a autre chose qui m'a frappée, c'est que dans une interview, vous dites que parfois, lors d'une rupture, il faut trouver une nouvelle mélodie, un nouveau rythme à donner à cette relation, trouver le bon tempo, adopter un mode mineur ou majeur, mélancolique ou faussement enjoué, puisque vous insistez sur la polysémie du mot « composé ». Donc c'est encore un rapport entre le corps et la musique.
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose de cet ordre, de réussir à changer aussi cette mélodie intérieure qui se composait avec celle de l'autre, qui se retrouve comme une voix seule et qui du coup n'a plus ni beauté ni sens. Donc il faut réussir à partir de cette voix-là qui est devenue pauvre et insignifiante quasiment, réussir à recomposer une nouvelle mélodie. C'est ce qu'on ressent quand on a été quitté, d'être devenu quelque chose de insignifiant, voire disharmonieux.
Dans les ruptures, si jamais j'essaye de consoler un peu les auditeurs Claire Marin, même si nous sommes pas là pour ça, puisqu'on dit le réel, et quand on dit le réel, on ne console pas, on peut se retrouver, on peut retrouver justement son originalité propre qui disparaît forcément en partie quand on est en couple. Et en même temps, il y a aussi la possibilité de se perdre.
Oui, c'est les deux à la fois. Sens où ça peut donner l'occasion d'être libéré d'un regard qui, sans forcément qu'on s'en soit rendu compte, avait un effet de censure ou de réduction d'un certain nombre de comportements, de façons d'être qui pouvaient être importantes et qui participaient à notre définition. Mais il y a aussi, dans toute rupture, une part d'illusion, croire qu'on va se réinventer, qu'on va être un nouvel homme, une nouvelle femme, que c'est une page blanche et que tout ce qu'il y avait auparavant peut être effacé, je crois que...
Hélas, on ne peut pas se quitter.
Pas complètement.
Non. Ou alors, on n'est plus là pour profiter des résultats. Bon, Claire Marin, il vous arrive de regarder des films tristes pour avoir un bon support au spleen. Il vous arrive aussi d'écouter des chansons tristes comme celle-ci. Well, it's been a long time, long time since I've seen. Mélancolie douce et berçante dans ce morceau de 2007, le morceau Nantes du groupe américain Beyrouth, que vous avez choisi, Claire Marin, dans la catégorie chanson triste.
Oui, bah c'est toujours la même chose. Parfois, on a besoin que sa tristesse soit bercée, que quelqu'un la dise d'une belle façon, quand nous, on peut rien faire que renifler. parfois, il faut aussi donner un espace où la douleur s'écoule. Et en musique, elle s'écoule de manière magnifique. C'est à ça aussi que les chansons peuvent nous servir.
comme le titre l'indique, c'est la perte. C'est la perte et ce qu'on peut faire, c'est-à-dire les stratégies qu'on peut inventer pour pas nécessairement regagner ce qu'on a perdu, mais en tout cas pour vivre avec et pour éventuellement retrouver peut-être autre chose. C'est l'idée que parmi les stratégies les plus drôles ou les plus fécondes, il y a la littérature, c'est-à-dire le fait d'inventer des histoires et de raconter des histoires. Et ça, c'est en fait, c'est ça le thème principal. C'est le fait que tous les personnages ont quelque chose à raconter et considère que pour affronter la perte, le mieux, c'est de raconter des histoires.
Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Claire Marin. On entend le philosophe et écrivain Vincent Delcroix, et je suis désolée si je prononce pas bien son nom, au micro de Toufik Hakem dans Le Choix des livres sur France Culture en 2007. Vous avez choisi deux de ses ouvrages, Ce qui est perdu, auquel vous faites souvent référence dans Rupture, et Ascension. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ces livres? Et je crois que vous en avez apporté un nouveau.
Voilà. Donc, c'est deux romans qui sont très drôles, alors même que le premier, Ce qui est perdu, parle quand même d'une rupture et des effets un peu catastrophiques qu'elle a pu avoir sur le narrateur qui abandonne ses études, qui ne passe pas l'agrégation de philosophie, ce qui est quand même le pire qui puisse nous arriver dans la vie. Ascension, qui est un livre qui, pour moi, a été particulièrement précieux, puisqu'à un moment où je ne faisais que pleurer dans ma vie, je me retrouvais à éclater de rire en lisant Ascension. Et jamais un livre a eu cet effet sur moi, donc je ne comprends pas qu'il soit pas
prescrit.
Massivement prescrit pour le coup là dans les remèdes. C'est mon choix numéro un, qui est une histoire assez rocambolesque d'un homme qui est aussi un peu raté sa vie et ses études de philosophie, qui se retrouve dans le pressing de son père et qui, pour une raison mystérieuse, est sélectionné par la NASA pour un vol très très spécial. Et c'est vraiment un livre où le ton, le rythme et l'écriture, le style incroyable, nous porte tout au long d'un nombre assez conséquent de pages. Donc je le recommande très 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 vivement.
Il y a une élégance du désespoir par le rire et la mise à distance du tragique chez Vincent Delcroix, qui est un vrai spécialiste de Kierkegaard, puisque dans tout Ce qui est perdu, justement, ouais. Le héros qui s'est fait quitter n'arrive pas à écrire son texte sur Kierkegaard, mais dans la vie, il l'a vraiment fait. Il l'a traduit, il a écrit sur lui, il a fait beaucoup de choses.
Oui, c'est une œuvre qui est passionnante parce qu'elle est à la fois romanesque et philosophique, et où la question de l'ironie, des ruptures et de la reprise, qui sont des thèmes très chers à Kierkegaard, sont eux-mêmes repris, travaillés et parfois même sublimés d'une manière extraordinaire. C'est une œuvre passionnante. Et j'ai effectivement apporté le tout dernier texte qui s'intitule « Apprendre à perdre » et où on a ce passage sur la mélancolie qui me semblait absolument nécessaire.
On vous écoute, Claire Marin.
Ainsi, la mélancolie n'est pas seulement l'empoisonnement du présent par le souvenir de ce qui est perdu. Elle s'obsède également du déchet de l'avenir, de ce qui est manqué, raté, mais qui pourtant n'était rien et ne sera jamais, n'aura jamais été sinon un souvenir anticipé. Mais perdre inévitablement des possibles n'est pas la même chose que perdre le possible, ou même perdre du possible. Et ce qui s'engloutit alors dans le passé en définitive, c'est le futur lui-même, perdu en tant que futur. La perte du possible double et surfile la perte de l'actuel, et à la fin, ce qui reste d'actuel n'est justement plus que l'actuel. C'est la logique même de la pauvreté, ou plutôt de l'appauvrissement, dont la vie dénudée et sans possible est le terme sinistre. Plus qu'il n'est dépeuplé, le monde se rétrécit, comme se rétrécit le halo qui entoure toute existence. Mais lorsque l'existence se trouve ainsi réduite au strict réel, elle n'est justement plus réelle. Et je trouvais ça magnifique de montrer comment dans la mélancolie liée à l'expérience de la perte, on perd pas seulement un passé, mais on perd tous les avenirs possibles, tout ce qu'on avait imaginé. Et c'est finalement l'imagination elle-même qui semble s'appauvrir et disparaître avec une perte majeure dans notre vie.
C'est ce que pensait justement Scott Fitzgerald en rédigeant La Fêlure, qui était une commande de la revue Esquire. Il l'a publiée en 1936. Il n'arrivait plus à écrire, oui, pensait-il. Et la citation consolatoire que vous avez choisie dans ce texte, Claire Marin, ne sonne pas très consolatoire a priori, mais vous allez nous dire pourquoi elle n'est pas aussi déprimante qu'on pourrait le croire, puisque c'est ce que vous avez précisé. Toute vie est bien entendu un processus de démolition.
Je crois qu'une fois que on entend cette phrase, effectivement, on peut avoir l'impression que décidément, on s'en sortira pas. Mais au contraire, si on comprend les choses d'ailleurs littéralement, c'est-à-dire dans la démolition, disparaît quelque chose d'une unité antérieure. Mais la disparition de cette unité ne veut pas dire que rien n'est possible par ailleurs. Et c'est ce qu'on voit dans le processus même du vivant, où il y a destruction et recréation. Donc sans être forcément dans une dynamique dialectique hyper positive, qui est de la démolition dans la vie, là encore, c'est un peu comme d'apprendre à perdre, à se familiariser avec l'idée que les choses se défont, que rien n'est éternel. D'une certaine manière, c'est juste du bon sens.
Mais qu'on ne veut pas avoir.
Qu'on ne veut pas, effectivement, regarder en face, parce que l'idée de perdre nous est tellement douloureuse et tellement inquiétante. Mais je crois que une fois que les choses sont posées, que les choses ne dureront pas, finalement les attentes, les espoirs se reconfigurent autrement. Et puis le sens de l'instant s'enrichit aussi. Il y a quand même cette dimension-là de réussir à vivre quelque chose du présent qui est peut-être plus sensible. Quand on a cette représentation, certes, un petit peu démoralisante.
Dans la fêlure, je vous le dis juste avant, un titre à entendre, il y a aussi cette phrase qu'on cite souvent dans l'émission, il faudrait comprendre que les choses sont sans espoir et être pourtant décidé à les changer. Plusieurs remèdes picturaux nous attendent juste après un morceau de la playlist Inter de National Oblivions.
Like you're not afraid of anything I do.
I want you here.
You don't know what it's like to be around you. I still got my fear.
It's a way you say yes. To marry me, you don't know what you're doing. Do you think you can carry me over the threshold, over and over again until oblivion? It's the way that you're gonna stop needing to tell me you want me as much as I want you to. Tell me I'm over the threshold and everything's gonna be totally okay until oblivion. Still got my
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Claire Marin.
Je parle de la similitude entre l'homme et la nature, mais surtout de l'importance que l'homme doit vivre avec la nature, avec l'élément végétal aussi. La beauté va côtoyer la violence va côtoyer d'autres ressentis humains comme la solitude, comme l'angoisse aussi. Et dans mon travail, ces éléments sont très essentiels parce que c'est l'expression de la vie, tout simplement. En tant qu'artiste, je me dois de faire des propositions en ce sens, en restituant des images fortes pour mettre la société devant la réalité et qu'elle se ressaisisse.
L'artiste camerounais Barthélémy Toguo sur Arte en 2018. Claire Marin, vous avez choisi plusieurs artistes, dont celui-ci, notamment pour ses aquarelles.
Oui, parce que j'étais très touchée par la manière dont certains portraits qu'il proposait en aquarelle disaient quelque chose de ce sentiment qu'on peut avoir de s'écouler hors de soi, de plus se contenir, de plus avoir de délimitations. Et l'aquarelle permet bien de traduire cette idée-là, qu'on a l'impression d'avoir perdu ses limites, ses contours, et qu'on sait plus exactement où est-ce qu'on se définit. Et comme il le dit lui-même, c'était très émouvant d'entendre sa voix. Ça dit aussi quelque chose d'extrêmement fort sur la violence qui peut être imprimée à un corps, quelle que soit la source d'ailleurs de cette violence. Et puis la fragilité du corps qui est parfois associée dans certaines de ces aquarelles justement à des éléments végétaux, ce corps qu'on a l'air de vivre comme bien en chair, bien solide, bien constitué, aussi fragile qu'un pétale ou qu'une feuille. Et ces éléments-là qui sont extrêmement bien traduits, il me semble, dans certaines de ces aquarelles.
Alors là, je ne sais vers où vous guider, Claire Marin, puisque quand vous parlez de pétales et de fleurs, j'ai envie de vous parler de la photographe que vous avez choisie, la japonaise Rinko Kawashi, qui photographie des petits détails en les rendant merveilleux, alors que ce sont des détails du quotidien, comme ça peut être un pétale ou une fleur. Et en même temps, les silhouettes un peu folles et dansantes, dites-vous, du peintre et dessinateur suisse Louis Souter.
Oui, qui a eu une histoire assez passionnante, puisqu'il a vraiment commencé son œuvre sur la toute dernière partie de sa vie, quand il était interné dans un asile. Et ce que j'adore sur ces silhouettes, qui sont souvent des silhouettes noires, avec assez peu de détails anatomiques, c'est que on ne sait pas s'il s'agit justement de comparses de l'asile, d'autres individus un peu fous, ou juste une fête incroyable où tout le monde se déchaîne dans la danse. Et il y a quelque chose entre la transe mystique et la folie complète, et les corps qui sont traversés d'une énergie qu'on ne sait pas bien qualifier. Et là encore, c'est cet entre-deux, cet état d'indécision, d'incertitude qui traverse les êtres, que je trouve toujours très passionnant, et ce doute qui surgit quand on regarde ces silhouettes qui sont presque un peu des ombres chinoises, hein, qui sont noires de cette manière-là. Je trouve que c'est quelque chose de très juste, qu'on ne sait jamais qui on a vraiment face à nous, et peut-être qu'on ne sait jamais vraiment qui il y a non plus à l'intérieur de nous, quel type d'énergie nous traverse.
Oui, parce que ça pourrait être des démons qui nous peuplent, ouais, aussi ces représentations. Puis vous avez choisi aussi, Claire Marin, les encres de Michaud, qui ne sont pas si éloignés
oui,
dans
qui sont un peu dans la même esthétique, et puis qui ont aussi cette autre dimension que je trouve fascinante, d'être parfois à la limite entre la représentation d'une chose et la calligraphie. Et là aussi, on est dans un entre-deux, entre deux types de symbolisation, une très figurative, une autre scripturale. Et j'aime bien cette idée que l'écriture vienne aussi de la transformation des choses.
Le corps, encore dans les aquarelles de Marlène Dumas, artiste originaire d'Afrique du Sud.
Oui, qui propose des portraits parfois assez crus, parfois très sexualisés. Et dans cette dimension brute, moi je suis toujours très intéressée par la représentation sans fioriture, sans embellissement du corps. On peut voir chez de nombreux peintres au XXe siècle, mais chez Marlène Dumas, justement, parce qu'il y a aussi ce jeu avec l'aquarelle et l'indéfinition ou l'imprécision de la limite du corps. Il y a quelque chose aussi de la brutalité qui se dégage de ce corps, pas seulement qu'il subit, mais qu'il l'imprécise. prime et qu'il jette parfois à la face du spectateur.
C'est ce qu'on retrouve aussi chez le peintre Émile Nolde, que vous avez choisi, Claire Marin. Quelques mots brefs sur lui.
Oui, qui en plus dit quelque chose d'un univers, enfin apporte un univers mystique, magique, d'une folie archaïque qui traverserait les siècles, quelque chose d'un peu primitif et brut en nous qu'on essaie de dissimuler, mais qui par exemple dans la danse explose de manière très colorée, très vive, presque agressive, avec des visages qui se déforment un peu comme un masque.
Je recommande aux auditeurs d'aller découvrir le reste de vos remèdes sur le site internet de l'émission. Vous avez dit primitif, Claire Marin, il y a justement le court-métrage primitif du cinéaste thaïlandais Apichatpong Verasethakul. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Merci à vous, merci.
Je rappelle que votre dernier ouvrage, Le Brillant Rupture, est paru aux éditions de l'Observatoire. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours, ils vous attendent sur le site de l'émission. J'espère que votre âme crépite aussi gaiement que celle d'un ruban pané. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.